Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
Avec vous, avec nous et avec notre expert du jour, c'est Xavier Dulin qui nous accompagne. Bonjour Xavier.
Bonjour Guillaume.
Bienvenue pour une rafale de questions dans un instant avec vous sur des sujets très divers et très variés. Je rappelle juste les modalités comme toujours pour nous écrire. Nous faire des propositions d'embauche, nous poser des questions, hashtag BFM Business avec vous, les réseaux sociaux, avec vous. @bfmbusiness.fr, le site internet, bfmbusiness.com et je vous rappelle que tout ça... c'est totalement gratuit. Xavier, avocat associé, Barthélémy avocat, des questions tous azimuts. Xavier, on va commencer avec vous, avec une question que nous pose Laurence sur bfmbusiness.com. L'employeur a-t-il le droit de licencier un salarié en longue maladie pour motif économique pendant la pandémie? Ça a été mon cas, demande Laurence, mais l'employeur avait-il le droit? Qu'est-ce qu'on répond, Xavier?
Beaucoup de salariés se sont posé cette question-là, oui. Parce qu'effectivement, la crise sanitaire a eu des incidences sur l'organisation de beaucoup de sociétés et des impacts sur la santé de certains salariés. Oui, oui, il est possible de licencier pour motif économique un salarié malade. C'était vrai pendant la crise sanitaire, c'est vrai après. Il y a deux conditions à cela. Hein, que le licenciement pour motif économique soit absolument réel, que ce ne soit pas un motif d'économie. Hein, vraiment, il faut avoir des difficultés économiques présentes ou imminentes, dans la logique de sauvegarde. Donc, il y a une condition liée à ce motif énoncé, invoqué par l'entreprise. Ouais. Il faut qu'il y ait réellement un motif économique. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait absolument aucun lien avec le salarié intéressé, concerné par cette mesure de licenciement.
C'est ça que procédure. J'entends. C'est voilà. Une procédure. Voilà, c'est
qu'il n'y ait pas une différence de traitement entre les salariés et surtout qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de l'état de santé. Ouais. Le licenciement doit être véritablement pour motif économique, pas pour un motif personnel déguisé. Donc la réponse est oui, sous respect, sous réserve du respect de ces deux conditions, un motif réel, économique réel, et l'absence de lien avec l'état de santé du salarié. On va supprimer son poste.
Absolument.
Vraiment.
Il faut que la motivation économique soit documentée, en l'occurrence. Voilà pour Laurence, qui nous a posé une autre question. En étant licencié, on est toujours dans le même cas de figure. Ai-je le droit de consulter la médecine du travail alors que je ne fais plus partie de l'entreprise? Ai-je le droit de la consulter pour faire face aux décisions du médecin contrôleur de la sécurité sociale concernant mon état de santé? C'est une question à tiroir, là.
Oui, c'est une question à tiroir qui paraît un peu curieuse à certains égards, puisque la personne a l'air de dire qu'elle est toujours en lien avec l'entreprise, mais qu'elle serait sortie des effectifs. Alors, en fait, consulter la médecine du travail, si on n'a plus de lien avec l'entreprise, ce n'est pas possible. Dans son cas, on a l'air de comprendre qu'un lien serait tout de même maintenu du fait du préavis ou d'un système de congé de reclassement, de sécurisation professionnelle. Là, oui, il y aurait toujours un lien et on pourrait toujours voir le médecin du travail. On peut voir en tout état de cause le médecin du travail tant qu'on a un lien avec l'entreprise. Ouais. Mais ce n'est pas la recommandation que je lui ferais. S'il n'y a plus de lien, de toute façon, il ne pourra pas être possible de voir le médecin du travail. Mais dans son cas, si pendant une maladie, elle a fait l'objet d'un contrôle, je lui recommanderais plutôt de voir son médecin traitant pour démontrer la sincérité de son infection. Dire j'étais en maladie, j'ai fait l'objet d'un contrôle, on s'assure de ça. Allez revoir votre médecin traitant qui pourra confirmer votre état de santé. Ouais. C'est plutôt la recommandation que je lui ferais. Sinon, pour le médecin du travail, je vous dis, tant qu'on a un lien avec l'entreprise, c'est possible. Si on n'a plus de lien avec l'entreprise, le médecin du travail n'aura plus de rôle direct.
Voilà pour l'autre question que nous a posée Laurence sur bfmbusiness.com. Vincent maintenant, qui nous dit « Un de mes employés a raté son rendez-vous en médecine du travail et l'organisme veut me facturer 120 euros en raison de cette absence. Est-ce légal ? » On a cru comprendre que oui. Vous nous le confirmez ?
Oui, là aussi, c'est le prix paraît tout de même un peu excessif. J'aimerais bien avoir des explications
sur le prix. On avait déjà eu des témoignages, je trouve que c'est 120 euros pour le coup.
Voilà, c'est ça. Je trouve le prix excessif, puisque quand on connaît le prix d'une consultation chez un médecin généraliste, on dit 120 euros, il y a une question. Donc là, on n'a peut-être pas toutes les informations requises. Sinon, effectivement, le principe, c'est que dès lors que c'est une consultation qui est assurée par les services de santé au travail, les frais sont en principe pris en charge par l'employeur. Si un rendez-vous est manqué, l'employeur peut dire... Si vraiment le salarié en question concerné par cette visite était en défaut, il pourrait à terme faire l'objet d'une sanction. Il manquait un ou plusieurs rendez-vous dans notre hypothèse. il pourrait y avoir une sanction qui ne serait pas pécuniaire. Et on ne pourrait pas lui demander de prendre en charge les frais en question. Oui. Donc les frais restent à la charge de l'employeur, de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Est-ce que le salarié pourrait être sanctionné s'il manque un peu trop souvent, ou ne serait-ce qu'une fois sans un motif valable, un rendez-vous ? Oui, sanction, mais qui ne pourrait pas être une sanction en argent.
Voilà, ça passe une fois, quoi. On va dire ça d'une certaine façon. Kena, qui nous demande, toujours sur bfmbusiness.com, est-ce que mon employeur a le droit d'imposer 4 semaines de congés payés ? Elle nous précise pas si c'est l'été ou pas. Mais est-ce que l'employeur peut, dans l'année, imposer 4 semaines de congés payés ?
Oui, alors c'est possible du fait de l'employeur que les congés comme ça soient organisés et imposés. C'est possible, effectivement, sous réserve d'un certain nombre de conditions qui sont liées notamment à des conditions d'information des salariés, des conditions aussi de respect de délai pour la fixation de ces congés. Pour faire court, 2 mois en amont, avec des possibilités de modification au dernier moment, si on peut dire 1 mois avant la date de fixation des congés. Il faut respecter aussi l'ordre, si vous voulez, des départs en congé. Il peut y avoir une fermeture d'entreprise, c'est souvent le cas en été, pendant 3 ou 4 semaines. Ouais. Donc la réponse est oui, sous réserve tout de même d'un respect d'un certain nombre de conditions de forme, on va dire, hein, délai, information.
Ouais.
Et puis aussi, là, comme toujours en droit du travail, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de différence de traitement. Hein, il n'y en a pas certains qui imposent 4 semaines et d'autres pas, ou de mesures de discrimination, hein, encore une fois, parce que certaines catégories seraient défavorisées par rapport à d'autres.
Évidemment.
Donc la réponse est plutôt oui,
mais sous condition.
Et sous condition.
Mais sous condition, voilà. Question de Sarah, j'ai quitté Paris pendant mon congé maternité, mais sans le dire à mon employeur. Qu'est-ce que je risque ?
En principe, rien, puisque l'employeur ne contrôle pas le lieu de la maternité, si l'on peut dire. En droit du travail, pas de question majeure, à mon sens. Il ne faut pas rendre impossible le retour. Mais je ne pense pas qu'il y ait de difficulté. Il peut y avoir une question en droit de la sécurité sociale, parce qu'il peut y avoir un contrôle, effectivement, de la couverture. Et donc là, il faut normalement que l'intéressé, encore une fois, l'expression que je retiens, c'est la personne concernée il faudra qu'elle informe normalement les organismes de sécurité sociale, pour le dire rapidement, dont elle dépend, pour dire quel est son lieu de résidence principale, lieu de résidence secondaire, pour que sa couverture ne présente pas de difficultés. Couverture sociale ne présente pas de difficultés. Donc, droit du travail, non. Droit de la sécurité sociale, il faut des informations paraissent nécessaires.
Bien, dernière petite question de Yaël qui nous a écrit également sur bfmbusiness.com. Je souhaite externaliser certaines fonctions de mon entreprise, c'est un patron, et notamment côté développeur, puis-je encourager mes salariés à créer leur auto-entreprise pour faire appel à eux par la suite ?
Le schéma paraît gagnant-gagnant. Hein. On dit, voilà, vous allez avoir plus d'autonomie, vous allez faire des affaires, vous allez peut-être gagner plus d'argent.
Ouais.
Et moi, en fait, j'aurai moins de contraintes puisque j'aurai externalisé l'activité.
Alors, il dit encourager, il dit pas obligé, il dit encourager. Hein.
Alors, on peut l'encourager, il faut que tout ça reste licite. Il y a au moins 2 conditions très, très rapidement. Il faut que techniquement, si on décide de sortir un salarié qui deviendrait un indépendant ou créer sa société, ça pourrait être le statut d'auto-entrepreneur ou vraiment il décide s'il a de plus grandes ambitions de créer une entreprise plus importante, avec peut-être même elle-même des effectifs, il faudrait vraiment qu'il y ait un apport de compétences, si vous voulez, que la demande, ensuite la relation, si elle est maintenue, entre l'entreprise et celui qui était avant un salarié, il faudrait vraiment démontrer que techniquement, on ne fait pas exactement la même chose que ce qu'on faisait en interne. Il y a un apport technique, une contribution de prestataire de service. L'autre condition à respecter, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un contournement des règles de droit de la sécurité sociale et de droit du travail. Contournement pour que les personnes en fait bénéficient moins de droits, hein, du moindre protection, ça doit pas être l'objectif recherché. L'objectif doit être un objectif technique, donc le projet doit être sincère techniquement, encore une fois. Et puis ça doit pas être non plus motivé par le souhait de payer moins de cotisations sociales,
bien évidemment.
Donc on évite le travail dissimulé, on évite de contourner les droits, les règles de recouvrement des cotisations sociales. Si on a un projet sincère, oui, techniquement, ça permettrait aux intéressés d'avoir plus d'autonomie, c'est vrai, peut-être de gagner demain plus d'argent.
C'est la notion d'encourager, le patron qui encourage, qui est un petit peu pernicieux.
Ça a été fait, en fait, je vous le dis franchement, ça a été fait de nombreuses fois.
Oui.
Ce que vont contrôler l'inspection du travail, pour le dire là aussi très rapidement, et les contrôleurs du SAF, c'est ça, c'est la sincérité du projet.
Voilà.
Est-ce que c'est pas un montage ? Est-ce qu'il n'y a pas de tricherie ? S'il n'y a pas de tricherie, le projet peut tenir.
Eh ben, écoutez,
intéressant.
Voilà la réponse à la question d'Yael. Voilà la réponse à ces questions. Merci beaucoup, Xavier. Merci de passer nous voir pour cette grande rafale de questions diverses et variées. On sait que vous en êtes friand. Vous continuez à nous envoyer vos questions, évidemment. Et on continue d'y répondre. Xavier Dulin, avocat associé, Barthélémy, avocat avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup, Xavier. À très vite.
Merci à vous.